Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour.
Et on va dire un mot de l'Espagne justement. Le gouverneur de la Catalogne a proclamé hier soir l'indépendance de la province tout en suspendant immédiatement le processus. Est-ce que ce qui se passe chez nos voisins espagnols vous inquiète, vous préoccupe ?
C'est en tout cas une situation extrêmement compliquée. Moi j'avais rencontré d'ailleurs le président de la Catalogne il y a quelques mois et j'avais le sentiment que leur... revendication réelle n'était pas tant l'indépendance en tant que telle. Rappelons par exemple que quand les Basques, il y a quelques années, ont accepté l'autonomie fiscale et budgétaire, les Catalans l'avaient refusé. Mais une meilleure répartition à la fois des pouvoirs et des richesses au sein de l'Espagne. C'était, me semble-t-il, dans cette conversation, plus ça qui était l'objet de leur... Bon, depuis, les tensions, les surenchères sont montées. Et puis, il y a eu l'épisode de ce référendum que Madrid a empêché par la force, avec les images choquantes qu'on a vues. Moi, je pense qu'on ne peut pas empêcher un vote, même illégal, par la force. Et aujourd'hui, il faut absolument que, et au besoin, l'Union européenne ou la France servent à les mettre autour de la table... pour voir quelles sont les intentions réelles.
Est-ce que la France a un rôle à jouer ? Le représentant du gouvernement de Catalogne en France le disait il y a quelques jours. Pourquoi la France ne propose pas une médiation ?
Je pense que la France peut se proposer, mais comme le disait d'ailleurs un membre du gouvernement il n'y a pas très longtemps, pour être médiateur, il faut que les deux parties acceptent la médiation. Aujourd'hui, Madrid n'accepte pas la médiation. Mais je crois qu'il faut aussi que Madrid entende qu'elle a besoin de parler à la Catalogne et que ce rapport de force ne conduit nulle part. C'est mauvais pour les Catalans, regardez les entreprises qui fuient désormais Barcelone et cette région. Et c'est mauvais pour Madrid qui commençait à voir revenir de la croissance, à sortir du gouffre dans lequel tout le monde a été plongé par la crise financière de 2008. Il faut qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils trouvent au moins un processus qui permette sans doute une meilleure répartition des pouvoirs, comme on le voit au Pays Basque. Vous comprenez le paradoxe quand même. Au Pays Basque, pendant des décennies, il y avait du terrorisme pour demander l'indépendance. Aujourd'hui, en réalité, au Pays Basque espagnol, plus personne ne demande l'indépendance. Parce qu'il y a eu un processus d'autonomie financière, fiscale, de répartition des richesses, d'autonomie législative qui l'a permis. Et je pense que c'est en cela que... où la France ou l'Union européenne peut être utile pour amener ces deux parties, si j'ose dire, ces deux idées parfaitement contradictoires, Madrid et Barcelone, autour de la table et à redevenir raisonnable. Tout ça finit par être totalement déraisonnable pour les Catalans comme pour les Espagnols.
Entre 200 000 et 400 000 manifestants hier, selon les sources, lors de la journée de mobilisation des fonctionnaires qui dénoncent les suppressions d'effectifs prévues pendant le quinquennat, le gel du point d'indice et plus généralement ce qu'on appelle maintenant le fonctionnaire bashing. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces fonctionnaires qui sont inquiets ?
D'abord... quand la CGT ou Mélenchon défile dans la rue, c'est un rituel, c'est pas une manifestation. Quand tous les syndicats appellent à une manifestation et à une journée de grève, je pense que ça mérite attention, d'abord considération, respect, et ensuite un dialogue qui soit plus construit avec la fonction publique. Je vais vous prendre deux ou trois sujets. Est-ce que le gel du point d'indice est quelque chose de choquant ? Rappelons quand même que l'an dernier, la masse salariale des fonctionnaires, c'est pas le cas pour tous les fonctionnaires, il y a eu plus pour les enseignants que pour d'autres, mais sur les décisions de François Hollande, les fonctionnaires ont vu une progression de leur pouvoir d'achat, c'est pas le cas de tout le monde dans notre pays. Geler le point d'indice, c'est ce que la Cour des comptes réclame, parce que l'augmentation de la masse salariale est très importante, mais aussi parce qu'on réduit pas assez le nombre de fonctionnaires. Au fond, la réflexion qu'on devrait se faire, c'est comment avoir moins de fonctionnaires, mais mieux payés. Je reviens sur les enseignants. Qu'un enseignant aujourd'hui, avec sa formation, soit payé au salaire d'un travailleur manuel, ce qui est très estimable dans notre pays, est-ce que c'est normal ? Ce sont des questions. Mais dans ces cas-là, la condition d'exercice du métier d'enseignant doit aussi changer. Peut-être le temps de travail, peut-être le temps de congé. Donc je pense qu'on s'en sort pas si on n'a pas, avec les fonctionnaires, une réflexion globale. Et un débat que je souhaiterais qu'on ouvre, c'est le statut de la fonction publique pour tous. Parce que la réalité, c'est que pour rendre un service public, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique est extraordinairement protecteur.
Il doit être limité à certaines missions
particulières. Je pense qu'il est parfaitement légitime lorsque il s'agit d'un magistrat, d'un policier, d'un enseignant. Parce qu'on doit les protéger de la pression politique ou de la pression financière. Mais lorsque vous rendez un service public tout aussi important, parce que vous servez un repas à des enfants dans les écoles, parce que vous êtes aide-soignant dans un hôpital, vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire. Comment on justifie le fait que si vous êtes aide-soignant dans une clinique ou aide-soignant dans un hôpital, vous rendez le même service public, vous êtes payé par la même sécurité sociale, au fond, in fine, mais vous n'avez pas le même statut, pas le même droit à retraite, etc. Et le dernier sujet que je voudrais soulever, parce que il a été beaucoup caricaturé, mais qu'on a eu un constat objectif, c'est l'histoire de la journée de carence. Vous savez, le fait, quand vous êtes absent un jour, de ne pas être
qui
payé...
Qui avait été instauré par Nicolas Sarkozy, puis supprimé par François Hollande.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Les fonctionnaires n'avaient pas de jour de carence, c'est-à-dire que s'ils étaient absents un jour, ils étaient payés quand même, sans passer par la case Sécurité sociale. Dans le privé, vous avez 3 jours de carence, mais... Un certain nombre d'entreprises, la plupart des grandes entreprises, pas des petites, la plupart des salariés dans notre pays ne sont pas dans les grandes entreprises. Ils sont compensés par l'entreprise. Simplement, qu'est-ce qu'on a pu observer? Moi, je l'ai observé à l'époque où j'étais maire. Quand Nicolas Sarkozy a dit on instaure un jour de carence, c'est-à-dire on ne paye plus quand un fonctionnaire est absent une journée, on a eu une diminution énorme du nombre de journées qui étaient prises comme ça pour une journée de maladie. Quand François Hollande a remis en cause cette journée de carence, eh bien, on a eu une augmentation à nouveau. Donc, on voit bien qu'il y a une façon de lutter contre des abus d'absence qui ne sont pas justifiés, disons les choses comme elles sont, parce que le fait que quand on ne paye pas, il y ait moins d'absents, et quand on repaye, il y ait plus d'absents, ça prouve bien qu'il y avait un problème. Donc, il faut dialoguer avec les fonctionnaires, repenser la fonction publique, et prendre en considération ce mouvement, parce qu'il n'est pas anodin. Je répète, c'est pas comme quand Mélenchon et quand la CGT défile. Ça n'est jamais que leur activité normale.
Vous les avez dans le collimateur, ça fait 2 fois.
Non, je disais... Attendez, tout le monde sait que dès qu'il se passe quelque chose, la CGT et maintenant Mélenchon, ils se font concurrence d'ailleurs, ils manifestent. C'est rituel. Quand vous avez des syndicats... qu'on appelle réformateurs, comme la CFTC, comme la SFDT, comme la CFE-CGC, qui appellent à manifester, il faut regarder.
Quel est l'avenir de l'UDI dans le nouveau paysage politique français? Est-ce que l'éclatement, par exemple, des Républicains aujourd'hui vous ouvre de nouveaux horizons?
L'avenir de l'UDI, pardon, me paraît assez simple, c'est de rester en réalité fidèle à ce que nous avons toujours fait. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est en place. De ce gouvernement, il y a un certain nombre d'idées que nous partageons. Et nous n'avons pas à nous cacher de les partager. Et puis il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons la liberté et la volonté de le dire. Et une volonté, une liberté et une autonomie bien plus forte encore dans cette recomposition du paysage politique. L'alliance avec les Républicains n'est plus une obligation.
Mais elle n'est plus une obligation, mais elle est encore une option quand même.
Elle est une option avec certains Républicains, pas avec d'autres.
Pas avec Laurent Wauquiez.
Clairement, la stratégie de radicalisation, de droitisation, d'extrémisation des Républicains est à la fois, à mon avis, le contraire de ce qu'est la droite française, celle de Gaulle, par exemple, ou celle de Chirac. Et en même temps, c'est se condamner, les condamner à un échec électoral permanent, voire à un rapprochement des idées tellement fort avec l'extrême droite que ça devient une droite extrême. Et ça devient surtout une droite qui n'est pas compatible avec nous. Mais au sein des Républicains, vous entendez d'autres voix. Lorsque j'écoute Christian Estrosi, lorsque j'écoute Xavier Bertrand, lorsque j'écoute Valérie Pécresse, ce sont des gens qui sont parfaitement compatibles avec les idées que nous portons. Et donc, il y aura une évolution, on verra ce que deviennent les Républicains. Mais nous resterons libres et absolument libres de savoir qui, comment, avec qui nous décidons de travailler. Et libre de nos positions, nous l'avons toujours été, mais nous le sommes encore plus, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas laisser un paysage politique vide entre d'un côté Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté Emmanuel Macron et Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Pardon, il y a des tas de gens qui souhaitent que notre pays réussisse, qui partagent un certain nombre d'idées d'Emmanuel Macron, qui sont contre, par exemple, la CSG ou la façon dont on est en train de favoriser certaines personnes. Pardon, je termine. Oui. Et qui veulent se retrouver. Vous savez, ces gens-là, d'une phrase...
Oui. C'est ben non, on a fini.
Pardon.
On a fini,
d'une phrase, ce sont ceux qui ont voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron, pas au premier, et qui veulent pas être condamnés aux extrêmes.
Merci, Jean-Christophe Lagarde. Bonne journée.